Donc nous avons lu ce passage qui est l'appel d'Abraham et le départ d'Abraham pour la terre de Canaan, dans Genèse 12, les versets 1 à 4. Et en Hébreux 11, verset 8, nous lisons « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. » Hébreux 11, c'est cette nuée de témoins. Et dans cette nuée de témoins, la foi d'Abraham, Abraham qui a une longue histoire rapportée dans le livre de la Genèse, sa foi est d'abord liée à sa réponse à l'appel que Dieu lui a fait, cet appel qui forme le début de son histoire et de celle du peuple d'Israël. L'appel d'Abraham par Dieu et la promesse qui lui est associée sont des marqueurs dans toute la Bible, Ancien comme Nouveau Testament. La promesse est répétée, elle commence à se réaliser imparfaitement. Pour nous chrétiens, elle est finalement réalisée en Jésus-Christ et continue de se réaliser à travers le monde jusqu'à son plein accomplissement, tel qu'il est décrit dans le livre de l'Apocalypse où on lit « Après cela, je vis, » ces gens qui parlent dans l'Apocalypse, « je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'était des gens de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple, de toutes langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » C'est Apocalypse 7, les versets 9 et à 10. Donc l'histoire du salut commence concrètement par l'appel d'Abraham. Tu peux passer la diapo après. Le contexte, c'est une vérité théologique qu'on nous apprend au début des études de FBSE, c'est que Genèse 12 vient après Genèse 1 à 11. Donc c'est un sens. En fait, le livre de la Genèse raconte le commencement. C'est vraiment le livre qui raconte le début de tout, le commencement de la création, de la vie, des villes, des arts, de l'agriculture, des meurtres. Et le premier mouvement du livre, c'est Genèse 1 à 11, qui raconte l'histoire de l'origine de l'humanité dans son ensemble, la vie de l'humanité. Et ce récit des origines contient déjà des promesses, par exemple à Noé après le déluge. Puis Genèse 12 ouvre le mouvement suivant du livre de Genèse, en portant un focus sur une personne en particulier, Abraham, qui est appelé à devenir une grande nation. Et la suite de Genèse, des autres livres de tout l'Ancien Testament, continue de raconter l'histoire de ce peuple qui commence par Abraham. Et il est important de noter dans le texte de ce matin, Genèse 12, 1 à 4, qu'il est précédé immédiatement par l'histoire de la tour de Babel. Et le point critique de l'histoire de la tour de Babel, c'est que les hommes se rassemblent tous pour construire une tour très haute, pour se faire un nom, et aussi pour ne pas être disséminés sur la terre. Or Dieu a pour projet de disséminer les humains, porteurs de son image, sur la terre, pour en prendre soin et en être de bons gestionnaires. Donc à la fin de l'histoire de la tour de Babel, Dieu brouille les langues des personnes. Or cette action n'est pas forcément racontée chronologiquement, parce qu'on voit déjà qu'il y a des peuples différents qui sont nommés avant. Donc il y a bien un lien théologique fort avec la suite, qui est l'appel d'Abraham. Donc, pour l'histoire d'Israël, c'est vraiment l'histoire de l'origine du peuple d'Israël, mais c'est aussi un récit pour l'humanité à la suite de cette histoire de Babel. Donc le texte est fondateur pour le peuple d'Israël en tant que récit d'origine de leur peuple. Dieu se manifeste, il intervient en donnant à Abraham une postérité alors que c'est humainement impossible. Abraham a 75 ans et Sarai, sa femme, est stérile, comme on le lit au verset précédent. Dans toute l'histoire d'Israël, Dieu est un Dieu qui intervient, qui se manifeste, qui utilise les faiblesses des humains pour faire connaître sa puissance, sa fidélité et sa compassion. Ce récit est donc aussi une suite au récit de Babel précédent. Donc l'humanité décide de s'unir pour monter jusqu'à Dieu, pour se faire un nom. Et la réponse de Dieu, après avoir brouillé les langues, est inverse. Il va lui-même rendre le nom de Abraham grand et le rendre père d'une grande nation. Et tout ça en partant d'un cas très mal parti avec Abraham âgé et son épouse stérile et âgée. Donc c'est bien un récit des origines qui explique l'origine du peuple d'Israël, où Dieu intervient ici et dans d'autres fois et jusqu'à dans nos vies. Dieu intervient dans l'histoire des hommes à chaque génération, et c'est cela qui participe à construire l'identité du peuple d'Israël dans tout l'Ancien Testament. Dieu veut se manifester, et cela commence avec cette relation personnelle qui commence ici, la relation entre Dieu et Abraham. Je relis le texte dans une version haute. Donc, Yahvé dit à Abraham, « Lève-toi et va, depuis ton pays, depuis ta famille et depuis la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et sois une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te bénissent, tandis que celui qui te méprisera, je le maudirai. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Et Abraham alla, comme Yahvé lui avait dit. Lot alla avec lui. Abraham était âgé de 75 ans quand il partit de Haran. Tu peux passer. Dans ce texte, je vois quatre points. Le premier point, c'est l'appel. Dieu appelle pour une relation personnelle avec lui. L'être humain choisit de répondre ou non à cet appel. Dans ce texte, Dieu appelle clairement un être humain en particulier, Abraham, à lui donner une réponse personnelle et à s'engager avec lui dans une relation interpersonnelle caractérisée par la confiance d'Abraham et la fidélité de Dieu. Dieu appelle Abraham à partir, à aller, et Abraham, après avoir écouté ce que Dieu lui annonce, qui se passera suite à son départ, accepte et part. Il se détache de tout ce qu'il connaît et part vers l'inconnu, sur la parole de Dieu. Et ceci bien que son grand âge et celui de son épouse et leur manque de progéniture constituent des freins pour accomplir la promesse d'être un grand peuple. Le second point, c'est la promesse-projet, l'invitation à participer au projet de Dieu. Cet appel qui invite Abraham à participer à toute l'action prévue montre que la promesse est aussi le projet de Dieu pour tous les hommes. Elle est l'histoire du salut à laquelle nous, les êtres humains, à la suite d'Abraham, nous sommes invités à participer, à prendre part. Le verset 4 nous guide dans cette lecture. Je le relis. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Cette partie-là. Suite à la parole de Dieu et en réponse à son premier impératif qui est « va, pars », Abraham s'en va et s'apprête à suivre les directions que Dieu devrait lui indiquer. Et c'est bien ce départ qui est pour nous tous un modèle de foi, de confiance en Dieu mis en action, tel que cela est indiqué dans le chapitre de la lettre aux Hébreux qui liste la nuée de témoins. Et c'est vraiment la participation des trois acteurs cités qui est nécessaire à la réalisation du projet. Dieu dans sa fidélité, Abraham par la foi, et aussi toutes les familles de la terre sont aussi participantes. Après le départ de Abraham, ce sont ses descendants qui ont à obéir au deuxième impératif, soit une bénédiction, pour que s'accomplisse l'ensemble du projet divin. Une proposition de traduction dans ce cadre pour les promesses de Dieu est « Je veux rendre ton nom grand, je veux te bénir, je veux faire de toi une grande nation. » Ce qui nous permet de mieux comprendre l'expression de l'intention de Dieu ici. Un troisième point, c'est le thème de l'exode et de l'exil. On voit ce double thème qui commence ici et continue tout au long de l'histoire d'Israël, dans le départ volontaire d'Abraham pour partir vers le pays promis, ou plus exactement à ce stade, le pays que Dieu va montrer sans qu'il soit encore le pays promis à son peuple. C'est une sorte de prémisse de l'exode du peuple d'Israël et des différents retours d'exil aussi. Mais ce départ d'Abraham est aussi un exil dans le sens où il lui est expressément demandé de quitter son pays, sa famille, la terre de son enfantement et la maison de son père. Petit à petit, il va perdre toutes ses attaches, tous ses repères. Mais on note quand même qu'il part avec son neveu Lot pour cette première partie du périple. Et si vous vous souvenez, le tableau aussi avec pas mal de troupeaux, je pense. Ce départ d'Abraham, c'est le début de sa vie de nomade, une vie toujours en mouvement, vers le but que Dieu a promis de lui montrer. Et le quatrième et dernier point, c'est la bénédiction universelle qui est le projet de Dieu. À ce stade de Genèse, une bénédiction pour tous les peuples de la terre, c'est certainement quelque chose qui est difficile à appréhender pour le peuple d'Israël, un peuple dont on lit qu'il est toujours en tension entre accueillir l'étranger en son sein et rejeter l'étranger dans l'espoir que cela protège la pureté du peuple et par là l'accès à Dieu pour le peuple. Or, dans le récit même de l'origine du peuple d'Israël, de son patriarche Abraham, le projet de Dieu est dévoilé et il est bien pour tous les clans de la terre. Dieu promet à Abraham la bénédiction, d'abord pour lui. Sa bénédiction est encadrée de deux promesses, rendre son nom grand et faire de lui une grande nation. Mais tout de suite aussi une bénédiction pour les autres peuples. On voit une interaction entre Abraham et les autres peuples avec ce verset que je veux relire et qui est un parallèle presque antithétique. Donc c'est Dieu qui s'adresse à Abraham et qui dit « Et je bénirai ceux qui te bénissent, tandis que celui qui te méprisera, je le maudirai. » Donc Dieu annonce d'abord qu'Abraham est un moyen de sa bénédiction, un médium de sa bénédiction, et dans une moindre mesure aussi de sa malédiction, mais on voit que le sujet de la malédiction, c'est celui qui au singulier, et alors que le sujet de la bénédiction est un pluriel, ceux qui te bénissent. Et cette phrase se termine sur cette promesse fantastique. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Dans la discussion sur les conséquences théologiques de traduire « seront bénis en toi, se béniront par toi, se béniront par ton nom », on touche du doigt la compréhension de ce qu'est fondamentalement la bénédiction, et spécifiquement la bénédiction de Dieu. Quel est le sens d'un souhait, d'un espoir de dire à quelqu'un « sois béni à la manière d'Abraham ». Évidemment, on peut penser à son nom rendu grand et à la grande nation qu'il est appelé à devenir, mais la bénédiction dont il est question est plus grande que ça, puisque Dieu ajoute à ces deux promesses « et je te bénirai ». On peut alors aussi penser à la relation d'Abraham avec Dieu et la découverte que Dieu souhaite une relation interpersonnelle et qu'il a le projet de salut pour toute sa création. Dieu bénit sa création. La première bénédiction dans le texte de Genèse est pour les oiseaux et les poissons pendant la création. Et Dieu bénit aussi, au cours de la création, le jour du sabbat. Notons que la bénédiction à Abraham, qui inclut une multiplication, une fécondité, dans cette bénédiction, Dieu s'adresse toujours à Abraham, 75 ans, marié à Sarah, son épouse stérile et âgée. Donc les moyens par lesquels ils vont expérimenter la bénédiction sont incertains. L'autre morceau de cette phrase nomme expressément toutes les familles de la terre qui seront bénies par Abraham, et ça fait partie de la bénédiction. Et ce thème-là, toutes les familles de la terre, à partir de là, dans l'Ancien Testament et jusqu'à dans l'Apocalypse, revient régulièrement. Et donc c'est cette vision merveilleuse dans Apocalypse 7, verset 9, où Jean voit des gens de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, qui se tiennent debout devant le trône et devant l'agneau. Cette promesse est répétée à Abraham, déjà dans Genèse, encore deux fois, en Genèse 18, en Genèse 22. Elle est répétée encore à Isaac, en Genèse 26, et à Jacob, en Genèse 28. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de toute la Bible quand on la lit. Et c'est cette considération qui nous invite, nous, lecteurs de la Bible, à voir dans la promesse particulière à Abraham, plus large que ça, à y voir la mission de Dieu de salut pour toute la création et en particulier pour tous les peuples, tous les clans familiaux. Nous sommes donc invités à voir ici une bénédiction universelle à transmettre, une bénédiction dont nous, chrétiens, croyons trouver la pleine réalisation en Jésus-Christ. Amen.